Bon, c'est pas un vain mot de dire qu'on est ému. C'est vertigineux même, d'une certaine façon. Donc je comprends bien que Maurice ait du mal à démarrer. Moi aussi, j'ai du mal à démarrer. Je savais que nous aurions tous les trois du mal à démarrer. Parce qu'il y a 28 ans quand même. Enfin, il y a 28 ans qu'on a joué. Et puis il y a presque 30 ans que Hélène et moi, on était dans... Side 2, Carrie Dan. Et une réunion comme ça, aussi paisible que celle d'aujourd'hui, pour parler du Cambodge, de Sihanouk, du théâtre au Cambodge, du Cambodge au théâtre, des rapports de la France et du Cambodge, du génocide. Il y a 30 ans, cette assemblée aurait été, je dirais, agitée de passions si diverses. J'ai ressenti ça quand j'ai vu le magnifique spectacle de jeunes Khmer l'autre jour. Il y avait dans la salle une perméabilité, une disponibilité, une découverte. Il y avait dans la pièce d'Hélène une pédagogie poétique et épique extraordinaire. Mais à l'époque, il y avait la même pédagogie épique et poétique, mais de la part de la salle, il y avait des culpabilités, des négations, pour ne pas dire parfois du négationnisme d'extrême gauche. Il y avait une compassion, il y avait une terreur, une sidération, parce qu'on était encore dedans, on en sortait à peine, enfin, nous en sortions. Et dans la salle, il y avait déjà, évidemment, il y avait des réfugiés, et parmi lesquels, on ne va pas le nier, il y avait déjà des Khmers rouges, et qui ont été parmi, qui se sont bien débrouillés, pour certains, d'être parmi les premiers réfugiés, vu, je dirais, à ce moment-là, quand même, l'aveuglement des autorités françaises, qui faisaient stagner dans des camps des gens, les victimes, et qui accueillaient parfois, sans le savoir bien sûr, hein, mais quand même, elles auraient dû le savoir, et qui accueillaient certains bourreaux. Et donc en entendant Maurice, et je me disais, ben oui, bien sûr, c'est comme si tout d'un coup, c'est évidemment une espèce de retour en arrière. Il y a dans la salle Mam Savai, qu'on avait rencontré à l'époque à Kaoutan, avec le père Serac, et qui plane autour de cette rencontre d'une façon incroyable, pardon.
Je pense que c'était en pile.
Non, en pile, peut-être. Pardon, en pile ou Carrie?
Ou aussi deux.
Non, aussi deux. Enfin, bon. Donc c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est difficile de mettre de ranger. Moi, j'arrive pas à ranger tout ça, j'arrive pas à ordonner ce mélange de travail, de découvertes humaines et politiques et théâtrales, le travail avec les acteurs, comment jouer des Khmers rouges, comment est-ce qu'on joue des Khmers rouges, comment est-ce qu'on joue l'incompréhensible, comment est-ce qu'on joue, voilà, donc vas-y. C'est ça le don d'un animateur, hein, c'est de faire parler. Donc tu es doué.
Très bien.
Non, c'était juste pour faire une suite ou un bord à ce que tu étais en train de dire, qui était fondamental. Je pensais que cette pièce, comme tu l'as dit, enfin ce travail, cet acte, c'était un acte théâtral et en même temps politique, moral, enfin. Se passait dans les années 84, 85, 86, à la frontière. D'abord, c'était à la frontière, c'est-à-dire que nous étions à la frontière avec Ariane, à la fois thaïlandaise et cambodgienne, et aussi à la frontière au bord de l'abîme, c'est-à-dire au moment où ce peuple aurait pu disparaître, était en chemin de disparition. Et c'est vrai que l'histoire inachevée, c'était le mot que tu avais trouvé, Ariane, inachevée. Ce mot disait quelque chose de très fort. Parce que achever, c'est aussi, comme vous le savez, exécuter, mettre à mort. On était au bord de la mise à mort. Bon, on était au bord, à la frontière, et je me disais que, par les miracles du théâtre, de l'histoire, de la conservation dans la mémoire ou dans l'oubli, on se retrouve à une frontière maintenant, mais elle est tout autre. Et cette frontière, elle est, à mon avis, elle est incarnée par nos 30 enfants, adultes, qui sont le Cambodge. Et c'est juste au moment où l'oubli va peut-être s'installer définitivement. C'est-à-dire que la mémoire doit commencer de toute urgence. Et lorsque nos jeunes ont commencé à se lever, à travailler, à faire du théâtre, pour eux, il n'y avait rien derrière eux. Il n'y avait pas de passé, il n'y avait pas de souvenirs. Ils ne savaient pas où ils avaient tout perdu. Pourquoi ils avaient tout perdu, vous verrez tout à l'heure dans les toutes petites séquences filmées, vous verrez qu'ils sont dans la perte, donc ils sont ressortis juste in extremis par ce moment de rencontre de théâtre qui a évidemment requis une quantité de force extraordinaire, hein, parce que le nombre de forces qu'il a fallu mobiliser depuis des années pour que on rattrape le peuple au moment où il risquerait de perdre la mémoire, c'est exactement comme ça que ça se passe toujours, hein, et est incroyable. Voilà, ce sont deux frontières.
Mais les Khmers rouges sont encore au pouvoir, c'est un Khmer rouge, et est-ce que je pense que j'ai lu que le théâtre de Battambang ne peut pas se produire au Cambodge avec ce spectacle?
Oui.
Comment s'organise-t-on par rapport à ça?
Attends, tu es un peu prématuré, ça, cette question-là, parce qu'elle va forcément nous emmener dans un débat politico-politique. Mais on va en parler, évidemment. Hein, et parce qu'effectivement, pour l'instant, ils ont joué quand même à Bantambang, mais ils n'ont pas joué encore à Phnom Penh. Donc, bien sûr que c'est... Ouais. Je pense que quand même ce qu'a raconté Ashley tout à l'heure de ce qui se passe au Cambodge en ce moment, ce qui s'est passé après la mort de Sihanouk, etc., montre que, même si tu as tout à fait raison, Hun Sen est un ancien Khmer Rouge, je ne pense pas qu'on puisse dire « les Khmer Rouges sont encore au pouvoir ». Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, bon, même si on est loin de la démocratie exemplaire, etc., mais on ne peut pas dire « les Khmer Rouges sont encore au pouvoir ». Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un ancien Khmer Rouge qui est au pouvoir, mais bon, il a quand même affaire à une opposition, tu vois, on n'est pas dans un système complètement totalitaire, quand même, on n'est plus. Mais bien sûr, c'est pas. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on fonce là-dessus tout de suite?
Je pense que c'est dommage. Je peut-être vous poser une question à Maurice.
Oui.
Non, mais moi j'avais une question.
Oui, vas-y. Alors.
Moi j'avais une question à vous poser pour ouvrir le débat. Qui est parti en flèche. Non, c'est vrai que je voulais vous poser une question à toutes les deux sur la genèse. À l'époque, donc nous avions passé 3 ans. En compagnie de notre maître Shakespeare, a raconté l'histoire des rois, et nous savions que c'était pas uniquement pour monter des pièces de Shakespeare, mais que c'était des spectacles écoles qui allaient nous permettre de raconter notre histoire contemporaine. Et donc nous attendions le spectacle contemporain, et j'avoue encore aujourd'hui que quand ce projet est arrivé, d'abord nous ne connaissions pas pratiquement pas le Cambodge, le Cambodge avait déjà été oublié, et donc ma question c'est la genèse au départ, si vous pouvez vous rappeler finalement dans l'océan des problèmes et des tragédies du monde, pourquoi après Shakespeare c'est le Cambodge et l'histoire de Sihanouk qui est arrivée?
Je pense, comment dire, je pense que le Cambodge n'était pas oublié, il était occulté, il était étouffé, mais il n'était pas oublié. En tout cas, il y avait en moi, disons, il y avait en moi une telle incompréhension, une telle indignation que c'était pas oublié. Et j'étais particulièrement indigné quand même aussi, pas seulement de ce génocide qui avait eu lieu, mais de la façon dont on l'avait laissé avoir lieu, et dont même certains intellectuels, journalistes, de chez nous avait accompagné ce mouvement sans nous éclairer dessus, en nous intoxiquant comme on nous avait intoxiqué sur tant d'autres déviances de l'histoire. Mais là où c'est creux, c'est quand moi j'ai demandé à Hélène, je dis, est-ce que tu veux bien essayer de faire qu'on travaille et que tu écrives, parce que ça doit être très clair, c'est que on travaille ensemble et elle écrit, on n'écrit pas ensemble, on travaille ensemble, je dirais presque parfois on scénarise ensemble, mais l'écriture est totalement et à 100, à 1000% celle d'Hélène. Donc quand je lui dis, est-ce que tu veux bien qu'on travaille, que tu écrives sur le génocide, on a fait ce qu'on devait faire d'ailleurs, mais bon, qui nous a quand même fait errer un moment, mais on doit, cette errance est, comme je pense, indispensable, c'est qu'on s'est éloigné. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais on ne peut pas être en direct. On ne peut pas être en direct, on ne peut pas travailler sur le génocide cambodgien comme ça. Il faut trouver une métaphore. Ça, c'était un peu ma marotte, et ça l'est toujours, et au fond... Peut-être que d'une certaine façon, je fais toujours la même erreur fertile, mais qui est une erreur, hein, mais je la fais. Peut-être comme si c'était pour moi un passage obligé dans lequel j'ai entraîné Hélène. Et donc, on s'est dit, alors pour traiter du génocide cambodgien, de l'immensité, parce que tout d'un coup, par ce génocide, ce soi-disant petit pays était devenu une immense tragédie. Nous avons cherché dans les collines, on a cherché dans les peuplades adjacentes ou à l'intérieur même du Cambodge, pour voir, parce qu'on savait quand même que personne n'est angélique, aucun peuple n'est angélique, aucun peuple n'est... Tous les peuples ont leur massacre, même le Cambodge. Et donc il y avait des minorités ethniques, comme ça, on a commencé à travailler. C'était évidemment passionnant et c'était bouleversant de voir tous les petits drames dans les collines, dans la jungle, toutes ces peuplades, parfois tribus, qui avaient été opprimées, parfois massacrées par une majorité de Cambodgiens. Bon. On a pataugé comme ça un moment, il faut dire, avec Hélène qui écrivait des choses déjà magnifiques, mais moi je sentais bien que bon, on était quand même on était loin. Quoi, genre. Et puis, tu me diras si je passe des étapes, ou si j'en passe certainement, mais si je me trompe. Et puis un jour, il y a toujours des bouts, il y a toujours un livre quand même, ou un personnage, mais il y a un livre qui remet comme ça, qui donne deux claques. Qui dit non, oui, d'accord, c'est bien, vous avez cherché, vous êtes éloigné, alors maintenant, boum! Et ce livre, ça a été le livre de William Shawcross, Sideshow. Pour moi, en tout cas. Parce que cet Américain, cet Anglais, pardon. Anglais, hein? Américain, Anglais, oui.
Anglais.
Anglais, merci. Cet Anglais, fils d'un des juges de Nuremberg, du procès de Nuremberg. C'est quand même intéressant, hein. Son père était juge au procès de Nuremberg. A écrit un livre que moi j'ai trouvé à l'époque et qui le reste tout à fait magistral sur ce qui s'était passé au Cambodge. Et lui, comme ce n'était pas pour faire du théâtre, ne s'est pas embarrassé de métaphores et il a pris Sihanouk, il a compris que Sihanouk était l'essence que par lui, puisqu'il incarnait le Cambodge, comme Ashley l'a dit, il éclairait quand même, par sa lumière, il éclairait, même si à un moment il en était le jouet et pas le maître, il éclairait le processus. Et à ce moment-là, je suis devenue un peu plus sage et avec Hélène, on s'est dit, bon, Nous avons notre métaphore, elle est à la fois épique, théâtrale, réelle, proche et lointaine, et c'est Sihanouk. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien, elle a démarré, mais alors, à fond la caisse, comme on dit grossièrement. Et je dirais, plus rien ne pouvait l'arrêter. C'est-à-dire que elle avait... C'était devenu à la fois haletant et calme, comme doit l'être toute bataille. Et nous avions le monde. Voilà, on avait le monde qu'il nous fallait. Le petit monde déchaînant une immense... un holocauste, il n'y a pas...
Le titre de ce livre de William Choucroux.
Sideshow.
Une tragédie sans importance.
Merci, voilà. Une tragédie sans importance. Ça, c'est le titre français. On a rencontré d'ailleurs Choucroux à l'époque, qui est, j'espère que je peux toujours dire qui est, un homme, un très bel homme, très sympathique et très généreux. C'est ça aussi qui est important, c'est quand on rencontre quelqu'un qui ne se pense pas propriétaire de l'histoire qu'il étudie, mais au contraire dispense comme ça, qui répand son savoir. Donc c'était ça, voilà. Voilà. Et Hélène, tu as quelque chose à ajouter, un bord?
Non, parce que c'est je me rappelle, alors en tant que qu'auteur, enfin ce mot, j'ai du mal avec ça, hein, mais ça fait rien.
Sois simple.
Non, je n'en sers jamais en plus. Mais j'avais quelques problèmes que je continue à avoir, mais enfin qui ont été exemplaires. Alors, l'un d'entre eux, c'était, parce que je commençais, c'était la première création que je faisais avec Ariane pour le Théâtre du Soleil, c'était la question de dimension. Et tu te rappelles quand on avait pris justement le chemin des écoliers, j'avais commencé à écrire une pièce sur les Jraïs, donc une petite peuplade qui avait été écrasée comme ça entre le Vietnam et le Cambodge, qui a disparu totalement, enfin qui n'existe plus. Et puis tu m'avais dit, mais c'est tout petit ça. Et c'est tout petit, c'était tout petit pour le Théâtre du Soleil, c'est-à-dire que le Théâtre du Soleil c'était le monde. Et moi, j'avais écrit dans ma tradition à moi qui n'existait pas. C'est-à-dire que j'avais pris des mesures que je pouvais assumer. Elle m'a dit, plus grand, plus grand, plus grand. Je me dis, plus grand, comment faire? Et ensuite, donc, on arrive, comme tu le dis, au Cambodge. Et là, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est grand. C'est grand, petit. Exactement comme l'Angleterre de Shakespeare, les mêmes dimensions, la même allure que l'Angleterre de Shakespeare. Et ça m'a rassurée parce que à ce moment-là, j'ai vu le théâtre. Et l'autre chose qui m'est restée, qui a été pour moi cruciale, et ça c'est une histoire assez comique, c'est que les personnages étaient tellement vivants pour moi que, en écrivant, je me disais, ça m'embête de leur mettre... Oui, j'ai toujours ce problème d'ailleurs. Chaque fois, j'embête Ariane, je lui dis, mais comment il s'appelle? Elle me dit, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais je dis, mais pour moi, il faut qu'il ait un nom, le personnage. Il faut que je puisse lui dire, hé, toi, Suramarit, ou je ne sais pas quoi, viens ici. Sinon, je ne peux rien faire. Et donc, je me disais, est-ce que je mets des faux noms? Et puis d'ailleurs, ils sont tous là, ils sont tous vivants, ou ils viennent de mourir, ou ils vont mourir demain. Alors, elle m'a dit, oh, écoute, elle avait toujours les réponses. Elle m'a dit, mais le... Laisse les vrais noms. Et à la dernière minute, quand on sera prêt à jouer, on change tous les noms. ça aussi, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, alors je mets tous les personnages et ça m'est égal. Par exemple, Kissinger, c'est très bien, je peux en faire ce que je veux parce que je sais qu'il ne va pas s'appeler Kissinger. Je suis libre. J'ai fait une autre chose dont la preuve vivante est dans la salle. Je donne à Solamarit, qui est une fiction...
Non, Suramarit n'est pas...
Il était une fiction parce que j'ai fait qu'il soit un... Il n'était même pas mort, Ariane, au début.
Oui, non, mais il a un itinéraire.
Il existait,
oui.
Mais je le faisais mort, oui. Alors qu'il était encore, oui, vivant. Mais ça n'avait pas d'importance puisqu'il avait changé de nom. Et donc, je lui donne une amante ravissante, etc. Et on était traversés, Ariane et moi, par les traces des gens qu'on avait vus
dans
les camps. Et donc, on s'est dit, et si on l'appelait Mumsavai, une des danseuses... une des trois danseuses du ballet royal Khmer qui avait échappé au massacre et qui avait fait une petite école qui était grande comme ça sur une paillote de Caen avec des enfants à qui elles enseignaient le ballet royal Khmer qui allait disparaître. Et parmi elles, une ravissante femme qui s'appelait Von Savaille. Et donc, j'ai pris le nom de Von Savaille qui était si belle et qui restait en nous. Je l'ai mis sur la personne de cette dame que j'avais inventée comme amante de ce roi. Voilà. Donc, j'avais une liberté folle. Et alors, à la dernière minute, enfin, je ne sais plus quand, je dis à Rien, bon, maintenant, il faut trouver les faux noms. Hein.
J'ai dit, ça ne va pas, non.
Voilà, et donc, tout le monde a gardé son nom, ce que je n'aurais jamais osé faire. Voilà, et du coup, ça, quand même, ce sont les coulisses de l'histoire du théâtre, ça, hein. Ça a donné une portée gigantesque. Enfin, ça n'a pas enlevé, ça n'a pas envoyé comme ça dans la fiction ce qui était la réalité la plus crue. Et donc, il y a 10 jours, j'ai eu un coup de téléphone du Théâtre du Soleil et quelqu'un m'a dit, dis-moi, est-ce que Von Savaille, c'est une invention ou c'est une réalité? Alors j'étais gênée parce qu'il fallait que j'explique ce que je viens de vous dire. Je lui ai dit, c'est les deux. Parce qu'elle a demandé des places. Alors, et en vérité, je ne savais pas ce qui était arrivé. Est-ce qu'elle avait réussi à échapper? Comme tant de gens que nous avons rencontrés dans les camps dont nous ne savions pas s'ils avaient survécu, s'ils étaient passés par Kawidam, une sorte d'énorme plateforme de réfugiés dont le destin était incertain, qui allait peut-être être renvoyé, qui aurait pu être renvoyé au Cambodge occupé, d'autres qui allaient aux États-Unis, d'autres au Canada, bref, je ne savais pas, nous ne savions pas. Et donc, j'ai raconté cette histoire à nos petits Khmers en leur disant que finalement, quand le théâtre fait l'amour avec la réalité, il se passe des choses incroyables. C'est-à-dire que finalement, la frontière entre la vie et la mort se déplace. Et donc, tout à l'heure, la vivante est venue me dire « Je ne suis pas morte !» Elle est là. Voilà. Donc, il nous arrivait des histoires de ce genre qui étaient... Qui se passe à l'angle entre le travail que nous faisons, c'est-à-dire où on prélève sur la réalité quelque chose qui va reprendre des forces si on l'amène au théâtre, et ensuite il y a des destins qui s'en mêlent, et on ne sait jamais comment.
Je dois parler.
Toi, tu peux. Tu t'épanouis, et je pense que tu restes. Moi, je me pose la question, par exemple. Souvent, quand je vois la généalogie de tes incarnations, je me dis que, de même qu'il y avait un peu de Douglas reste dans toi, ça c'était un des personnages qui jouait dans Shakespeare, dans les Shakespeare, de même, je me dis toujours qu'il y a un petit peu de Pennout qui doit rester en toi, j'imagine. Mais ça, c'est une expérience d'acteur et c'est très important.
Oui, enfin, c'est une expérience d'acteur particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont cette chance et ce voyage d'aller, par exemple, comme ça a été le cas pour Maurice, d'aller à l'enterrement du personnage qu'il est en train d'incarner. On a été à l'enterrement de Pennout, nous tous, et on était en train de jouer. Où est-ce qu'on était déjà dans la diable ?
On répétait. C'est ce qui était extraordinaire, c'est que... Oui. C'est une cérémonie, c'est une crémation. Et donc, les Cambodgiens qui étaient là ont vu débarquer une bande de
terre.
Je ne sais pas ce qu'ils ont dû penser. Et on était là, tout le monde était
en
train de pleurer. Et donc, on a vu le cercueil de Pennout, le vrai, partir. Et je me rappelle, on est sorti. Et donc, il partait en fumée. On a repris les voitures et l'après-midi même.
On répétait. On jouait ou on répétait ?
On répétait.
Il a payé en mémoire.
J'ai donné vie. C'était.
Et on le connaît. Et au fond, nous, Théâtre du Soleil, je me souviens, parce que les gens, quand même, tu as tout à fait raison, ils se demandaient qui on était, ils venaient nous interroger. On se rendait compte qu'on le connaissait mieux que certaines personnes, pas tous les gens, pour que certains le connaissaient très bien, mais nous le connaissions mieux que certaines personnes qui étaient là à assister à son enterrement. On connaissait mieux son parcours, sa vie, ses douleurs, son comportement, que certaines personnes qui étaient en train de l'enterrer. Et je m'en souviendrai toute ma vie, quand Sihanouk est venu voir le spectacle, et que pour qu'on ne le remarque pas, il avait demandé qu'on ne le voit pas, c'était quand même difficile. Donc on a fait rentrer le public, et au moment où les lumières se sont éteintes, on l'a fait monter par derrière. C'était pas tout à fait plein, ce jour-là. C'était extraordinaire, c'est-à-dire que c'est comme si un aimant était entré dans la salle. C'est-à-dire, au moment où il est entré, toute la salle s'est retournée. Mais toute la salle, je n'ai jamais vu ça. C'est pas comme s'ils avaient entendu un spectateur légèrement en retard se mettre en place. Il y a eu quelque chose, il y a eu une aimantation comme ça. Les gens ont senti qu'il se passait quelque chose. Je pense que c'était probablement au tremblement des premiers acteurs qui étaient en train d'entrer en scène, mais ils se sont retournés. Et après, quand j'ai été dans le hall, et j'ai vu Georges Bigot, donc encore en Sihanouk, je me souviens dans ce que nous appelons le petit vomitoire, de ce nom terrible, que j'essaie de changer mais j'arrive pas. Et il était encore évidemment habillé, et tous les deux se sont rencontrés. Il faut dire, c'était vertigineux. Et je me disais, mais au fond, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont cette oui, je ne peux pas trouver un autre mot que voyage, comme ça, de rencontrer celui qu'il est en train de vivre.
C'était pour nous une journée extraordinaire, parce que déjà depuis Shakespeare, on avait appris, enfin, on s'adressait au public. Traditionnellement, on fait du théâtre pour le public, donc. On est les personnages, mais quand même, on voit. Alors, en plus, comme il était un peu isolé, Sihanouk, ce jour-là, il était plus haut. Et donc, c'est vrai qu'on était terrorisés, parce que petit à petit, on s'est dit, il est là. Donc. Et puis, on voyait. Dans des moments où il était mis mal à pied, des moments où il s'arrêtait, donc on avait un miroir extraordinaire, parce que c'était un être qui était comme le Sihanouk du spectacle, dans son corps. C'était un homme qui était dans son corps.
Et on avait un allié de poids qui était son fils, le roi actuel, donc Siamoni, qui était devenu vrai, lui par contre vraiment notre ami, et qui avait tout fait pour que son père vienne voir le spectacle et qu'il n'y ait pas de difficultés, parce que faut quand même. Vous vous rendez bien compte que quand ça s'est su, même si on avait vu Hélène et moi Sihanouk avant, on lui avait dit qu'on allait faire son histoire, raconter son histoire, il était très content que ça s'appelle l'histoire inachevée. Il n'était pas encore revenu au pouvoir à l'époque. Hein. Donc quand il a su que le titre était Histoire terrible mais inachevée, au fond je crois que ça a levé des obstacles pour lui. Mais par contre, ce n'était pas le cas tout à fait de certains de son entourage, en particulier de certains militaires. L'ambassadeur est militaire. Donc on recevait carrément des femmes de militaires ou des filles de militaires qui venaient nous menacer, comme ça, dehors, je me souviens. On les invitait à déjeuner, elles venaient déjeuner avec nous, et calmement, elles nous menaçaient d'interdiction, de qu'elles allaient appeler, je ne sais quoi, quels tribunaux, etc. Et donc Siamoni, on n'était pas rassurés, nous, on se disait, bon. Et Siamoni, lui, quand il est venu voir le spectacle, hein, il a dit non, il faut absolument que Monseigneur voit ça, etc. Et je me souviens, il avait simplement demandé que le jour où son père serait là, je ne sais, je crois que, en fait, dans le spectacle jeune, j'allais dire les spectacles jeunes, je crois qu'ils n'ont pas gardé d'ailleurs non, ce petit moment-là, ce que, bon, mais il y avait, alors, dans le moment entre Sihanouk et Chuen Lai, au moment de l'histoire de la Calas, Ben Nout donnait un grand coup de pied dans le fauteuil de Sihanouk, comme ça, pour que quand même Sihanouk se tienne un peu face à Chuen Lai. Et Siamoni, c'est la seule chose qu'il a demandé. Il a dit, bon, le jour où Monseigneur est là, peut-être le coup de pied. Bon, et effectivement, bon, ce jour-là, tu avais fait juste comme ça, un soubresaut, et il n'y avait pas eu le coup de pied.
Et il y avait une autre
petite
chose.
Le fauteuil.
Oui, ou tu avais raté le fauteuil, je ne sais pas.
Il y avait une autre petite chose qui inquiétait Siamoni, c'était tellement adorable. parce que c'est un homme charmant, gracieux, distingué, délicat. Et il avait dit, avec délicatesse des deux côtés, délicatesse à notre égard et délicatesse à l'égard de son père, une petite inquiétude. Je ne sais pas si mon père ne sera pas, enfin, n'aura pas une réticence lorsque le roi Soramarit va pisser dans un coin sur la route de Pékin. S'il ne peut pas se retenir, il faut vite qu'il aille faire pipi dans un coin. Parce que ça, quand même, c'était... Enfin, ça l'inquiétait un petit peu. Mais non, ça s'est bien passé.
Et une autre petite anecdote sur le télescopage entre le théâtre et l'histoire, c'est Siamoni qui nous avait raconté que lorsqu'il était plus jeune, et donc prisonnier, dans le palais royal à Phnom Penh, prisonnier des Khmer Rouges, il ne pouvait pas sortir, et où tous les livres avaient été brûlés, avaient disparu, il y avait des livres cachés.
Magazine. Hein? Il y avait des magazines aussi.
Il y avait des magazines, mais surtout, lui, ce qu'il lisait, c'était un livre de Shakespeare, et c'était Richardot. Oui.
C'est ça, oui, quand on venait de monter. Non, et puis il avait trouvé aussi, il disait, il avait raconté à Hélène qu'il avait trouvé un vieux magazine avec une photo d'Hélène, qu'il avait trouvé très belle. Et alors, voilà. Donc c'est drôle, parce qu'il y avait des choses comme ça, qui se tissaient par les étoiles. Peut-être des questions du public.
Alors.
Je me permets, Ariane, c'est. Quelque chose en plus à ce que vous venez de dire sur Siamoni. C'est le lendemain de sa présence ici, il donnait une conférence de presse et en fait, c'était sur les problèmes diplomatiques, etc. En fait, toute sa conférence de presse, il l'a consacrée à ce qu'il avait vu la veille, de la façon dont vous aviez réconcilié son personnage sur scène, ce qui le déroutait, ce qui l'encourageait à poursuivre ce travail politique et diplomatique. Et ce qui l'a beaucoup touché, c'est qu'en France, ça il l'a dit clairement dans sa conférence de presse, que les gens de théâtre, les artistes, lui aient consacré autant de temps pour qu'il puisse encore vivre, alors qu'à ce moment-là, il n'était absolument pas sûr de son destin. Il n'était plus maître de son destin. Il n'était que un personnage qui était ballotté par les grandes puissances, soit régionales, soit au niveau mondial, parce qu'on était en pleine guerre froide. Et ça, ça lui a apporté un réconfort énorme. Et il en a beaucoup parlé pendant sa conférence de presse, même si parfois il était dérouté de la façon dont vous aviez écrit son personnage sur au théâtre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en plus de tout ce que vous avez dit.
Merci, Pierre. Il faut dire que, de même que les aventures extraordinaires de Maurice ou de Georges, c'est-à-dire d'acteurs qui deviennent des personnages, qui rencontrent leurs personnages, qui s'échangent avec ces personnages, est tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de rois qui ont l'humour, le courage de venir se voir sur une scène,
bien sûr.
Et c'est à nous qui était capable de ça, quand même.
Oui, c'est parce que quand même, bon, il y a une des scènes, évidemment, un des épisodes qu'il aurait bien aimé qu'on oublie, c'était Battambang, c'était la répression de Battambang.
Et son rapport avec les Khmer Rouges, parce que même maintenant,
bien sûr, oui.
Tu sais, je rencontre des spectateurs qui me disent. Vous êtes dur avec Sihanouk, etc. Hein. C'est-à-dire qu'on dit on n'a évidemment pas de parti pris, on en a le parti pris de la vérité. Mais c'était fort de sa part.
Et ça, la période sur. Je parlais de la répression avant qu'on l'angle, lorsque la révolte des paysans. Si on n'en parle pas, on ne comprend pas
bien
tout
sûr.
Ce qui va se passer
bien sûr.
Après.
Mais c'était impossible.
Ce qui s'est passé à Saint-Malo à ce moment-là, parce que dans la pièce, on parle de 300 morts. En fait, il y a des bilans qui sont très contradictoires. Mm. C'est entre 300, 1000, j'ai même lu une fois dans un document 10 000 morts. Mm. 10 000 morts me paraît complètement erroné. Mais entre 300 et 1000 morts, ça, ce n'est pas possible. Et je pense que c'est le tournant dans la monarchie. Parce que à partir de ce que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des paysans qui ont connu cette période dans la province de Bas-Camp-Bang, il y a eu un moment de défiance à l'égard de Sihanouk, même si pour eux, ce n'était pas Sihanouk qui était le responsable, c'était la gendarmerie royale.
Et
mais il y avait ce lien qui était quand même fait. Et puis, c'est surtout où le tournant est important, c'est à ce moment-là que les Khmers Rouges s'emparent de cette histoire et vont totalement réécrire l'histoire de ce qui s'est passé à Saint-Lô, mais la porter de telle façon qu'à partir de 70, ça va être le thème récurrent de toute la propagande des Khmers Rouges à ce moment-là.
Non, non, mais bien sûr, mais c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'on pouvait pas, en faire l'économie. C'eût été totalement mentir. Et effectivement, c'est historiquement qu'il en ait été. Bon, même si ce que je pense, hein, c'est, je pense que c'est très bien écrit dans la pièce d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que bon, il d'une petite colère, Lonnol en fait une répression abominable et qui dépasse bien l'intention de Sihanouk, il a néanmoins, ça s'est passé sous son règne, donc il en est responsable.
J'ai une question technique. Qui est-ce qui a traduit en khmer?
Alors
non, pas moi. Mais je peux donner la réponse. C'était un ethnologue khmer qui a vécu en France pendant de longues années et qui s'appelle Antulien. Oui. Qui a fait ça avec une force et une émotion qui m'a moi-même impressionnée.
Tu peux dire deux mots ou tu penses que ce serait indiscret de dire deux mots sur Antulien?
Sur Antulien.
Oui.
Je pourrais en parler toute la journée.
Non, mais dis deux mots parce que c'est un homme extrêmement distingué et extrêmement émouvant.
Oui. Antulien, c'est quelqu'un qui a fait des études à l'Université des Beaux-Arts à Phnom Penh et qui a eu une bourse, qui était un étudiant brillant au département d'archéologie. Où il s'est intéressé à l'archéologie de son pays. En 1974, il a eu une bourse pour venir faire des études en France. Il s'est retrouvé en France, donc forcément en exil à ce moment-là. Il a voulu retourner au pays, mais a décidé, un peu contre son gré, à l'appel des Khmers Rouges en 1975, de ne pas y aller, tout en voulant y être. Parce que les Khmers Rouges, à cette époque-là, disait à tout le monde en France, revenez. Et il y a beaucoup de monde à Paris qui est parti. Donc il a passé ces années-là à accompagner des camarades, des amis, à rentrer sur Phnom Penh. Il les a plus revus comme beaucoup de monde en France. Ensuite, il a vécu en France jusqu'aux années 1990. Il était chargé à Saint-Rémy, il a eu sa thèse. Il était chargé à Saint-Rémy pour retourner au Cambodge pour faire des recherches. Il a pensé, son but était de retourner au Cambodge. Depuis, il vit au Cambodge et il s'est consacré à l'enseignement, au rétablissement de l'Université des Beaux-Arts et à l'enseignement des jeunes et à l'édition au Cambodge et à la renaissance culturelle et aussi universitaire et du pays. Et c'est quelqu'un, comme Hélène dit, qui était extrêmement distingué, discret, et pour moi, c'est le plus grand savant du Cambodge. Pour moi, c'est une honneur énorme qu'il a accepté de faire la traduction.
Je voudrais ajouter, et donc tu m'arrêtes si tu penses qu'il ne faut pas le dire. Hein, parce que,
vas-y. Bon,
mais c'est elle
Sa
qui
fille,
c'est
toi qui m'as dit, mais elle n'est pas là pour l'instant.
Non, parce que, en fait, Angelin ne s'est pas mis au travail tout de suite. Il a eu un long retrait, une longue réticence. Et il n'était pas venu voir le spectacle lorsque nous l'avons fait. Parce que justement, sa souffrance était trop présente et il avait la crainte qu'ont dû avoir beaucoup de Cambodgiens de se sentir blessés d'une manière ou d'une autre par quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, hein, tu ne dis pas une chose.
Tout à fait.
Voilà.
Et puis,
oui, vas-y.
Non, vas-y, continue.
Eh bien, et en fait, c'est le temps, la longueur de la relation, le fait qu'il était au jury de thèse de Lachelet, que c'est un homme de cœur et de droiture qui a fait que, à un certain moment, il a dû se dire, parce que nous avions un problème, il fallait trouver un très bon traducteur et un vrai. Il s'est avancé. Et ça a été un effort. Il est sorti justement du retrait dans lequel il s'était installé et on lui doit beaucoup. Et il est venu, à partir du moment où il s'est engagé, il a fait un travail merveilleux et il a été extrêmement heureux quand il a fait ce travail et qu'il a vu ce que c'est devenu.
Puisqu'on parle des gens à qui on doit beaucoup, vivants, mais moi je voudrais quand même dire juste un mot de celle que nous appelions Marie Martin et qui s'appelait Marie Alexandrine Martin, qui était elle une botaniste au fond, parfaitement bilingue, et qui nous a énormément aidés pendant les répétitions, parce qu'elle, bon, par sa connaissance de la langue, par sa... C'était pas quelqu'un qui connaissait bien le théâtre, et donc elle était totalement innocente et spontanée devant les répétitions. Elle y croyait comme une enfant, à tel point qu'elle se mettait à pleurer. Donc moi, je savais, quand elle pleurait, pour moi, c'est un bon signe. Et je me souviens que c'est à elle que j'ai posé cette question. J'aurais dû poser bien plus tôt, mais on pose des questions au moment où elles nous viennent. Tout d'un coup, je me rappelle très bien, parce qu'on travaillait sur l'évacuation de Phnom Penh, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne savais absolument pas comment les Khmers Rouges s'y étaient pris pour vider une ville de cette importance. Et matériellement, concrètement, que tous les journaux avaient raconté l'évacuation de Phnom Penh, mais ils ne racontaient pas comment les Khmers Rouges avaient fait pour... Et alors, je me suis retournée vers elle, je dis, mais Marie, comment, au fond, concrètement, ça commence comment? Et elle m'a répondu, par des haut-parleurs. Et je me rappelle très bien d'elle me répondant ça. Donc je voulais qu'on prononce son nom, elle a été très importante, vraiment. Et évidemment, un nom qui va revenir pendant toute votre journée, et qui est le nom de Pierre, du père Sérac, qui est probablement le seul saint que j'ai rencontré dans ma vie. Et qui est venu ici, qui a vu le spectacle, qui est donc avec Véronique de Kropp, qui est à l'origine de la fondation de Phare. Et
qu'on avait rencontré au Cambodge, mais par contre là, Ariane, comment, moi j'ai oublié, tu l'as rencontré comment le, enfin,
et ben, moi aussi, j'ai oublié. Je me souviens de lui, nous rencontrons à Bangkok. Je me souviens du voyage en autobus,
oui,
jusqu'à Ampil, et après jusqu'à Rania Pratet. Enfin, non, jusqu'à Ampil. Mais je me souviens. Je ne sais pas comment. Quel est le miracle qui a fait que nous avons, comme des milliers d'autres gens, été proches du père Sérac. Je ne me rappelle plus et j'espère qu'un jour je le saurai, mais...
Enfin, c'est toi, parce que moi, je suis venue un peu plus tard que toi.
Oui, oui, c'est moi.
Il était déjà là.
Oui.
J'ai une question sur votre processus d'écriture. Vous avez parlé tout à l'heure de votre liberté formidable du fait des mots qui allaient changer. C'est une question sur la documentation sur laquelle vous êtes fondé. Parce qu'en faisant une pièce comme celle-là, vous faites œuvre d'histoire.
Oui.
Moi, je suis historien. Alors, je suis habitué à travailler avec des sources. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez lu des choses auparavant et puis vous lancez? Est-ce que vous avez un tour des témoignages?
En fait, c'est vrai, il y a d'abord un travail d'historien. Évidemment, l'histoire n'étant pas faite, mais les documents existent. Donc là, il faut savoir... moi, je dirais que d'une certaine manière, les journalistes, quand ils ont l'étoffe digne, ils font ce travail de recherche, d'enquête, etc.
Ils le faisaient.
Mais, hein,
ils le faisaient.
Ils le faisaient, oui. Je l'ai dit, quand ils ont cette étoffe, mmh, non plus. Hein. Mais Shawcross, par exemple, il a fait ça. Il était sur le terrain et il a rencontré tous les gens qu'il pouvait rencontrer, etc. Bon, moi, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai procédé. Je suis de formation universitaire, donc la recherche, je sais qu'il faut qu'elle soit maniaque... Et qu'elle voit large et en même temps tout petit. Et donc, avec Ariane, on a toujours procédé de cette manière. C'est-à-dire qu'il existe déjà des documents de tout genre, hein, c'est-à-dire soit qu'il y ait des documents dans les médias, soit qu'il existe des petites publications. Par exemple, à partir de la cour de Sihanouk, il y a toujours eu des petits documents. Il y en avait des quantités astronomiques. D'abord, Sihanouk écrivait tout le temps, il tenait des journaux, il communiquait, il envoyait, pas comme maintenant, puisque c'était une époque pré-technologique, mais ça se promenait. Ensuite, il y a des spécialistes des régions. Donc, nous avons eu l'apport de Marie Martin, et qui a pour moi été très important, parce que j'avais besoin, par exemple, du terreau géopolitique. Moi, j'avais besoin de savoir quel riz on cultivait au Cambodge, quoi, parce que sans ça, on ne peut pas écrire. Et Marie pouvait me répondre sur tout ce qui était concret, de manière parfaite. Il y a aussi, on pouvait remonter hein, à la fin du 19e siècle, il y avait les premiers espèces d'ethnologues, archéologues qui avaient laissé énormément d'écrits très intéressants sur le Cambodge que j'ai lu. C'est comme ça par exemple que j'ai fait la rencontre de Jayavarman, parce que c'est un personnage qui appartient à l'imaginaire cambodgien. Bon, donc tout ce qui pouvait exister et qui était déposé, je crois que je l'ai consulté, je l'ai mis en note, etc. Puis, il y avait, et ça c'est très important, la communauté cambodgienne réfugiée qui était importante en France et avec laquelle nous avons eu immédiatement des rapports. Et eux nous ont aussi menés de plus en plus à l'intérieur de ce monde qui était un monde assez silencieux, il faut le dire. D'abord parce qu'on était à une époque où justement il y avait encore les Khmer Rouges, Sihanouk, les Vietnamiens, etc. Donc les gens avaient des positions partisanes. C'était très important d'entendre les paroles partisanes, de pouvoir les distribuer, de savoir les calculs que faisaient les gens quand ils parlaient. Donc on a vu aussi des tas de personnages pittoresques qui appartenaient à tel ou tel fragment de la scène générale cambodgienne. Et ensuite, je pense que pour que ça se concrétise, que ça devienne vivant, il fallait y aller. Donc, comme je le disais, rien n'est parti avant moi, parce que moi, j'avais pas fini. Moi, je voulais finir d'écrire au moins ma première partie avant de m'élancer dans la réalité, parce que j'ai peur toujours que la réalité domine de telle manière qu'on n'arrive plus au niveau poétique. Et donc, je lui avais dit, moi, je veux finir ma première partie, après, je te rejoins. Donc, elle est partie avant moi, là où on pouvait aller, puisqu'on ne pouvait pas rentrer au Cambodge, qui était occupé par les Vietnamiens.
Oh, oui, enfin, on pouvait, mais on savait qu'à ce moment-là, on ne pourrait parler qu'avec des Vietnamiens. Donc,
voilà, donc on est rentré par le bord. C'est-à-dire que Ariane est allée en Thaïlande, et puis elle a pu aussi, parce qu'il fallait avoir des permis. Donc, tu t'es occupé en Thaïlande de trouver les permis pour aller dans les camps, etc. C'était toute une paperasse qu'il fallait obtenir. Et je l'ai rejoint 15 jours après. Et là, on est entré. On avait déjà Khao Yai qui était dehors, c'est-à-dire l'énorme Khao Yai. Et puis, dedans, les camps de tout genre. Il y avait des camps sihanoukistes, mais il y avait des camps anti-sihanoukistes qui étaient divisés, et des gens qui circulaient de l'un à l'autre. Et là, alors, je pouvais entendre, puisqu'on écoutait, je pouvais entendre les vraies voix. Encore toute tremblante, sanglotante, et en même temps d'une ouverture et d'une générosité extraordinaire. Et on avait un statut particulier, Ariane, tu te souviens, c'est là justement qu'on était toujours avec le père Serac. On était à la frontière de Thaïlande-Cambodge, à Rania Pratet, et on n'avait pas le droit de rester, on avait des permis pour la journée, c'est-à-dire qu'on partait le matin à l'aube avec le camion dans lequel nous étions avec le père Serac, qui se faisait de toute façon visiter tout le long par l'armée thaï, et on n'avait pas le droit de faire rentrer quoi que ce soit. Oui. Tu te souviens qu'on était
donc il arrivait avec les pantalons bourrés de bonbons
ou de stylos, et enfin ce qu'on pouvait cacher, quoi, mais on n'avait pas intérêt à se faire choper, parce qu'ensuite on n'avait plus de permis. Et le soir, on était mis à la porte, il fallait repartir. Et on voyait l'énorme portail qui ressemble un peu au portail de l'entrée du parking de la cartoucherie qui se refermait, et avec les Cambodgiens qui restaient dedans et nous qui avions la liberté de revenir vers la Thaïlande.
Et vous qui êtes historien, moi, parce que moi, évidemment, on a aussi vu des, comment dire, des gens qui écrivaient sur le Cambodge. Mais ce qui est curieux, c'est que parfois, vous avez des historiens ou des pseudo-historiens qui voudraient même vous interdire de travailler sur tel sujet. Hein, et donc, comme disait Hélène, c'était très, très, comme je disais au début, c'est-à-dire c'était très, très, très présent encore. Donc, il y avait encore des... Il y avait des gens qui avaient d'ailleurs écrit des choses qui, à mon avis, sont criminelles, mais et qui n'aimaient pas du tout l'idée que des non-historiens, des gens de théâtre, essayent d'incarner cette histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu même pour 1789. C'est étrange, hein. C'est-à-dire que quand on a commencé 1789, on a été voir des gens comme Albert Soboul, c'est-à-dire pas n'importe qui, hein. Bon, lui était très communiste, mais bon, il nous autorisait. Il voulait bien nous autoriser à travailler sur 89. Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un, pour ne pas le nommer Patrick Kessel, qui, lui, me disait, mais de quel droit? De quel droit vous allez faire un spectacle sur 89? D'où venez-vous? D'où êtes-vous? D'où parlez-vous? C'était la grande parole maoïste, hein, c'est d'où parlerez-vous? Moi, j'étais, mais alors, j'étais idiote, quoi. Enfin, je comprenais même pas ce qu'il me disait. D'où parlerez-vous? Il me parlait à nous, théâtreux. Mais ça s'est mal terminé. Enfin, il nous a, pour ainsi dire, mis dehors de son appartement. Donc, comment dire? Les historiens sont sérieux, mais pas tous, hein. C'est-à-dire, pas tous, quand même. Et par contre, non, je dévie un peu sur 89, parce que c'était un peu c'était cru. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un comme Jean Massin, qui, lui, a vécu pendant la Révolution française. Il a vécu, il était vivant, dans une autre vie, il l'a vécu. Mais il ouvre toutes les portes, toutes les portes. Et non seulement il ouvre toutes les portes, mais il est joyeux. Il est joyeux que nous voulions rentrer dans la Révolution française, que nous voulions incarner. Il se fiche de nos erreurs inévitables. Et après tout, dont certaines réparables. Hein, il s'en fiche. Il veut, voilà. Et puis, vous avez les gens qui... Cette phrase, d'où parlerez-vous? D'où êtes-vous? D'où parlerez-vous? Comment osez-vous? Et ce boule, non, quand même pas. Mais quand même.
Si je peux me permettre, il y a sûrement un élément de jalousie. Pour nous, il y a cette liberté dont vous parlez, on n'a pas forcément nous.
Oui.
Notre méthode...
Mais notre liberté n'est pas de l'irresponsabilité. Hein. Moi, je réclame pas du tout l'irresponsabilité de ce que nous racontons.
Votre spectacle, c'est 100 fois plus concret, politique et social que n'importe quel bouquin d'un historien. C'est une jalousie. Elle est probablement aussi liée à ça. Et il y a une réticence scientifique qui est évidente sur justement la question sur quoi on écrit.
Oui.
Base de quoi? C'est pour ça que je pose la question.
Oui.
C'est vrai que nous, si on n'a pas le bon historien entre 3 millions de guillemets, s'il n'a pas forcément le document qui va lui permettre d'affirmer quelque chose, il ne le fait pas.
Oui.
Et vous pouvez le faire, sans problème. Parce que
mais ça, c'est une histoire, si je peux dire, une histoire d'historien, c'est d'ailleurs tout à fait passionnant, parce que nous avons fréquenté énormément d'historiens dans notre longue carrière de théâtre, et on en voit de toute espèce. Mais, c'est l'histoire de l'histoire, c'est de la science de l'histoire. Mais au-delà de ça, si je peux dire, tous les malheurs dans l'histoire trouvent aussi des propriétaires. Et ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'on le rencontre, et c'est pas seulement pour le Cambodge, il y a quelque chose qui fait que dans certaines personnes, parce que ça n'est pas général, mais il y a certaines personnes qui se disent c'est mon malheur, voilà, c'est ma propriété, et je vais en faire mon œuvre, ma production, mon grand film, et n'y touche pas. Et ça, on le rencontre très souvent, et c'est très compliqué.
Et là où vous avez raison, mais bon, là on parle vraiment de théâtre, en fait, hein. On parle théâtre, on parle de la force du théâtre. Vous avez raison, un historien honnête, s'il n'a pas, comment dire, une vraie source, etc., ne pourra pas combler. Le théâtre a un autre outil, qui est, je dirais, l'imagination des acteurs, leur qualité de médium, vraiment, leur qualité de médium, parce qu'un auteur est aussi un médium, et un acteur l'est aussi, une actrice, ce sont des médiums, c'est-à-dire quelque chose leur vient. Et je donne toujours cet exemple, parce que c'est un des exemples qui m'a quand même moi-même le plus frappé. Et il s'agit là, on va passer dans l'India, où nous avions affaire, de la même façon, à des personnages historiques, certains encore vivants à l'époque, d'autres pas, parce qu'il s'agissait d'une histoire plus ancienne, mais bon. Et dans une improvisation, à propos, toujours dans la pièce d'Hélène, donc, il y avait cette fameuse rencontre de Simla. Nehru arrive, Abdul Ghaffar Khan, joué par Simon Abkarian, et là, Nehru, joué par Georges, rentre, pousse-pousse. Moi, j'étais ravi de la mise en scène de cette scène, j'étais très fier, je trouvais ça très beau. Et Simon, qui est très grand, Abdul Ghaffar Khan était très grand, Nehru était d'une taille moyenne, Georges est d'une taille moyenne, ils se saluent, et Abdul Ghaffar Khan prend Georges, Simon prend Georges, Abdul Ghaffar Khan prend Nehru, comme ça, et le soulève. Et ils s'embrassent. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il y a dans la salle un grand poète afghan assassiné depuis, Majrou, qui vient me voir à la fin du spectacle, qui me dit, il avait adoré le spectacle, mais il me dit, mais comment savez-vous qu'Abdul Ghaffar Khan soulevait Nehru comme ça? Quand il était enfant, il avait vu cette scène, chez son père, je ne sais pas. Enfin, il l'avait vu puisqu'il était afghan, donc Abdul Ghaffar Khan, qui était pashtoun, venait souvent dans sa région. Son père se connaissait, bref, il avait vu une ou deux rencontres entre Nehru et Abdul Ghaffar Khan. Et il avait vu cette... Il avait vu ça. Ni Georges, ni Simon ne savaient ça. Pas un seul historien, et pour cause, ne nous l'avait raconté. Mais la force du théâtre, c'est-à-dire l'ensemble de deux corps différents, d'une amitié, de l'incarnation de cette affection, de cette amitié, de cette solidarité politique, de cette aventure des Freedom Fighters qui avait uni ces deux hommes, de la bonté de l'un, Abdul Ghaffar Khan en l'occurrence, de l'intelligence et aussi bonté, mais bon, de l'autre, ont fait que deux acteurs qui sont sincères, qui vraiment travaillent en profondeur sur leurs sentiments, leurs états, voilà, ça se fait. Alors, ça peut aussi donner des choses invraisemblables, mais donc je veux bien croire qu'effectivement un historien n'a pas cette force-là, mais encore que, il y a eu des historiens qui avaient ce talent-là aussi. Alors bon, peut-être qu'ils étaient entre guillemets moins exacts, mais si nous lisons avec autant de plaisir encore les histoires de Michelet, de Jaurès, hein, ces gens-là travaillaient encore comme ça. Alors bon. Il y a des choses contestables, du point de vue de l'exactitude historique, j'en doute pas. Mais ça donnait pour nous un lien avec l'histoire, ou même pour nos enfants qui l'étudient à l'école, ça donnait un lien. C'était les premières, pour moi, l'histoire de France, ou l'histoire, quand j'étais, c'était les premières épopées. Quand je lis maintenant les fiches que nos enfants reçoivent à l'école, je suis... C'est terrible. C'est-à-dire qu'on entend maintenant des enfants nous dire « j'aime pas l'histoire ». Je crois pas qu'on pouvait dire ça quand on était petit. On pouvait pas. C'était parce que, justement, on laissait encore quand même un peu d'épopée, d'imagination, d'humanité dans l'histoire.
Mais...
Ça vous paraît archaïque ce que je dis?
Je suis totalement d'accord avec vous.
Ah, mais bien, c'est bien alors.
Mais après, on n'écrit plus l'histoire de la façon dont l'écrivait Michelet ou Jaurès.
Oui.
Voilà.
Oui, mais on pourrait l'écrire. On pourrait quand même passionner nos enfants avec l'histoire.
Et on peut, avec
la
parole, pas forcément plus par l'écrit, mais
oui.
La parole.
Je suis d'accord. Mais les, disons, le matériel écrit qu'ils reçoivent est terrible.
Et juste une petite chose, l'imagination des acteurs dont parlait Ariane se nourrit aussi par des rencontres. Moi, je me souviens d'une rencontre avec un général. Un jour, Ariane a convoqué un général dans le foyer. Donc, nous, on était tous, la plupart, antimilitaristes. On se trouve face à un homme qui était... C'était le général Bull.
C'était l'ami, un grand ami d'Hélène.
Qui commence à nous raconter que, en fait, l'histoire qu'on est en train de faire est directement liée à l'histoire de la France, à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui dégénère en guerre d'Indochine. Puis après, il y a les Américains, la guerre du Vietnam, et puis la guerre du Vietnam qui gagne le Cambodge, et tout ça raconté par un homme qui l'a vécu, qui a connu le général Leclerc, qui a fait partie, qui a fait partie de cette mission où il y a eu l'accident de... Enfin, bref, avec des choses qui ne sont pas encore éclaircies dans notre propre histoire.
Bah oui, la mort de Leclerc.
Oui, la mort de Leclerc. Et donc, on est là et on se rend compte qu'on est en train de travailler sur un monde, sur une histoire qui est directement liée à notre propre histoire, puisque nous, on vient de là. Ça, c'est extraordinaire à vivre. Et donc, pour pouvoir faire ce voyage, on a eu besoin aussi d'accéder à ces sources, soit écrites, soit racontées par des acteurs de l'histoire qu'on racontait.
J'aurais bien ajouté quelque chose pour avoir vu le spectacle, j'avais 20 ans, et sur cette rencontre théâtre et histoire, moi j'avais vraiment l'impression que vous écriviez l'histoire. Vous étiez partie prenante de cette histoire qui se jouait. J'ai vu la représentation pendant laquelle François Mitterrand et Robert Badinter sont venus. Et j'avais l'impression vraiment qu'il se jouait quelque chose d'important, c'est-à-dire que vous leur disiez des choses sur lesquelles ils avaient encore à agir. Et c'était incroyable. Non, quoi,
c'est gentil de parler de cette... Parce que moi, je n'osais pas en parler de cette séance tout à l'heure. C'est parce que je pense que ça a été important. Parce qu'ils sont venus. D'abord, c'est important qu'ils viennent. François Mitterrand voulait voir que la première partie. À l'entracte, il a décommandé ses rendez-vous. Il est resté pour voir la seconde. Et à l'entracte, Hélène et moi, on a été manger avec eux, à la table, au milieu de tout le monde, mais à la table avec eux. Et on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas bien le dossier. Et visiblement, Mitterrand s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas bien le dossier. Et donc, en un quart d'heure, Hélène lui a fait un topo comme ça, mais très vite, parce qu'il confondait. En plus, il confondait des personnages. Et donc, on lui a dit, lui, c'est pas vrai, c'est un méchant, lui. et on lui a fait, et comme Mitterrand était quand même, je dirais, d'abord un homme d'une certaine envergure, hein, quand on en dit, et d'une intelligence, et nous avons senti... On a vraiment fait un topo sur qu'est-ce qui se passait à Bangkok, à l'ambassade de France, par rapport aux réfugiés, qui était un certain colonel corse, qui empêchait vraiment de beaucoup de visas qui auraient pu être donnés vraiment très, très facilement, et qui les retenait, qui compliquait les choses, qui était une ordure, excusez-moi, et qui avait le poste vraiment stratégique par rapport aux réfugiés. On a balancé ça pendant l'entracte. Il est resté, il a vu tout le spectacle. Bon, je ne vous dis pas que ça a changé le monde. Mais peut-être, effectivement, peut-être que du coup... Ah oui, non, ce qui était joli, c'est qu'à un moment... Ça, c'était très joli, parce qu'à un moment, Mitterrand se tourne, nous dit... vous savez, hein, moi, je l'ai reçu, Sihanouk. Hein. Il s'est vanté. C'était très beau, ça. Mais bon, je pense que... que cette séance, en tout cas nous on était très évidemment très très comme ça attendu, je pense qu'effectivement le simple fait que Mitterrand soit venu voir le spectacle, qu'il ait vu les deux parties, qu'il ait pris la peine à l'entracte de nous écouter, enfin d'écouter surtout Hélène d'ailleurs, lui faire ce topo comme ça très rapide, un re-résumé de ce qui se passait au moment même où nous parlions et de l'éclaircir sur un ou deux personnages, je pense qu'effectivement, ça lui a, il a prêté plus d'intérêt ensuite au dossier cambodgien. Je pense.
Oui, oui. De toute façon, il n'a jamais oublié, oui, on en a parlé des années après.
Mitterrand était complètement dérouté par Sihanouk. Il ne comprenait pas le personnage. Oui. Il se disait, mais qui est-ce oui. Ce dirigeant politique qui arrive à fasciner la planète entière. Il ne comprenait pas le langage ancien. Et après avoir vu la pièce, il a demandé à Claude Chesson de lui faire des notes sur la situation au Cambodge, voilà, et sur Sihanouk. Donc là, effectivement, il y a eu ce moment, je dirais, politique, qui, parce que c'est Chesson qui m'en a parlé.
Oui.
Et parce que donc, Chesson est mort le même jour que Sihanouk.
Bon.
Et j'ai eu accès à toute la documentation, à toutes enfin, ces notes personnelles sur le Cambodge et sur le Vietnam. Et il m'avait parlé justement de ce moment où Mitterrand lui a dit, mais j'ai vu la pièce, etc. Mais Claude, est-ce que vous pouvez me faire des notes sur cette situation dans ce pays, etc. Mais jusqu'à la fin, c'est à nous que déroutait. Parce que quand il y a eu la conférence de Paris, il y a eu un entretien entre Mitterrand et Sihanouk, donc à l'Élysée. Il est ressorti de cet entretien, Mitterrand toujours déboussolé. Il a dit à Dumas, maintenant vous occupez du problème et je reviendrai quand le problème sera réglé. Et il était complètement perdu face à ce personnage qui, effectivement, sort de Thomas.
Il était déroutant. Mais alors voilà, ça veut dire. Ça veut dire ça, madame, ça veut dire que le théâtre, c'est un grain de sable, que de temps en temps, ce grain de sable se met dans un dérouage.
C'est quelque chose qu'on ressentait vraiment pendant cette représentation. Georges Bigot avait été, je ne sais pas s'il savait que Mitterrand était là, mais...
Oui, si tout le monde savait.
Il avait défendu le personnage de Sihanouk, quand il lui avait offert ce personnage pour voilà, une meilleure visibilité... Je me rappelle du moment du numéro de plaquette qui avait été on avait l'impression vraiment qu'il y avait quelque chose, un message à faire passer, quelque chose à défendre.
Mais c'était tous les soirs, hein. C'était tous les soirs qu'il défendait Sihanouk. Pas seulement le soir de Mitterrand.
C'est une représentation, mais celle-là avait été quand même plus forte.
On est en train de dépasser l'heure du programme. Peut-être une dernière question de nos amis.
Oui.
Khmer.
C'est à propos de l'écriture d'Hélène, est-ce qu'elle a écrit ça d'un seul coup ou est-ce que c'était un travail où elle a écrit au début, ensuite elle a repris, etc. Il faut mieux comprendre le processus de l'écriture. Et ça a pris combien de temps pour écrire cette histoire?
Qu'est-ce que tu penses, Ariane? Un an quand même au moins ou un an et demi?
Non.
Mais parce que j'écrivais pendant que vous...
Oui, c'est ça, oui. Tu as raison. Oui. Elle a fait je me rappelle même pour son anniversaire, Maurice et Clémentine avaient fait une petite chanson et ça s'est allé comme ça. Notre auteur chéri vient de terminer la pièce. Maintenant, bravo, elle pèse au moins 10 kilos. Et c'était parce que la pièce était énorme. Énorme. À cause de cette fameuse liberté. Donc, et moi, j'avoue, j'aime bien quand elle écrit des choses, on se débrouille après. Donc, évidemment, donc en fait, la correction, je dirais, le retour, je vais vous répondre tout de suite, le retour d'Hélène sur son travail s'est fait pendant les répétitions. C'est-à-dire, pendant les répétitions induisent, évidemment, des changements. Il y a une question insistante.
Non, c'est pas du tout une question, c'est un début de réponse, puisque je conserve les archives du texte d'Hélène, qui est en effet énorme.
Je vais vous le dire.
Qui est en effet énorme, il y a des dates de temps en temps. Donc
voilà.
Ça permet de dater.
Et alors
il y a un moment, la première époque, c'est fin 84, mais il y a tout le travail avant.
Voilà.
Ça fait bien 2 ans, je pense.
Ben non, parce qu'on a joué en 85.
En 85,
oui.
Donc,
oui. Donc, oui, ça fait. Disons que c'est un an. C'est un an. Non, parce que madame qui est la Bibliothèque nationale, et donc qui a les archives d'Hélène et du Théâtre du Soleil, me dit qu'il y a des dates quand même sur les écrits d'Hélène et que les dates qu'elle voit, c'est de fin 84 à 85. C'est ça? Fin 85.
Fin 84, c'est la fin de la première époque, donc il y a une année avant.
Voilà, fin 84, c'est la fin de l'écriture de la première époque.
Oui, ça fait un an et demi.
Donc ça fait, ça fait un an. Mais une partie de ce travail est pendant les 6 mois de répétition, les 6 ou 7 mois de répétition. Oui.
Je vais poser la question pour l'auteur. On en a compris qu'elle a pu prendre des libertés avec les personnages réels, sous fait de changement de nom, et c'est devenu un mélange de fiction et de réalité. Je voulais savoir comment les acteurs avaient abordé la même chose.
Non, oui, c'est pas le même travail que l'auteur, mais comme je disais, c'est un travail immense de préparation, de lecture, d'images aussi, parce que nous, les acteurs, on travaille beaucoup avec les images. Mais l'essentiel du travail se fait quand même sur le plateau. Soit avec le texte, soit improvisation avec le texte, collectivement et avec Ariane. En tout cas, on fait autant confiance à notre imagination qu'à, par exemple, des apparences réelles de personnages qu'on peut voir dans des documents ou dans des photos. Ça c'est pas sur le Cambodge, mais par exemple sur l'Indiade, où on devait jouer des personnages qui avaient réellement existé. Il y avait toute une série de photos qu'Ariane n'a pas voulu qu'on regarde avant 3 ou 4 mois. Une fois que les personnages étaient là, on a pu voir les photos. Parce que, c'est vrai que notre outil principal, c'est l'imagination. On aurait pu, être bloqué ou on essaie, même si on parle de la réalité, de se situer toujours dans ce que nous on appelle la légende. Ce sont des personnages légendaires. Et je pense que c'est pas pour rien qu'avant on est passé à la moulinette des pièces de Shakespeare qui nous avait projeté dans la légende, dans le mythe. Et c'est avec cet élan qu'on a pu créer cette pièce sur l'histoire du Cambodge, sur notre histoire.